Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
Bonjour à tous, ils sont pliés plus ou moins soigneusement dans nos portefeuilles. On les utilise toujours, mais on ne les regarde jamais vraiment. Ce dimanche, on va parler billets de banque. Une exposition a lieu actuellement au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. On y retrace l'histoire de ce moyen de paiement, à quoi ressemblaient nos premiers billets, à quoi ressemblaient ceux en cours au moment de la colonisation, puis après l'indépendance, quelles illustrations, qu'est-ce que cela nous en dit ? On est allé visiter cette expo en bonne compagnie avec Nadia Sabri, la commissaire de l'exposition. Mais pour commencer, Casablanca. Casablanca accueillera la semaine prochaine une série de spectacles de danse contemporaine. Ce sont les rencontres chorégraphiques. Ça dure 5 jours. C'est un événement piloté par la compagnie de danse marocaine Koljam. Danseuse, chorégraphe, Halam El Morsi en assure la direction artistique. On est allé la rencontrer sur place à Casablanca.
Midi, bain de culture avec David Labo.
Halam El Morsi, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes à l'Institut français de Casablanca. Ce sera un des lieux des rencontres chorégraphiques. On est dans le jardin. Les spectacles auront lieu dans le théâtre. C'est le théâtre 123, c'est ça ?
Exactement. On va avoir une palette d'artistes internationaux qui vont danser ici. Et aussi des Marocains.
On est dans le jardin, les spectacles auront lieu dans le théâtre juste à côté, le théâtre 123. Quels sont les objectifs de ces rencontres chorégraphiques, hein ?
Alors, le premier objectif, c'est de contribuer au développement des arts chorégraphiques au Maroc, essayer de poser les briques de la structuration du domaine. On invite des programmateurs internationaux et des professionnels, des directeurs de festivals et des artistes confirmés. L'objectif est de créer des projets de coopération entre le Maroc et d'autres pays, et aussi former. Donc, des masterclass sont prévues, des auditions, des résidences d'artistes avec les danseurs locaux.
Il y a des programmateurs internationaux aussi qui peuvent être de la partie ?
Oui, bien sûr. Cette année, la nouveauté, c'est qu'on a un focus belge. Donc, il va y avoir Bruxelles International qui viendra avec ses professionnels. Il va y avoir aussi des directeurs de théâtre, de festivals de la Tunisie, de la France, du Maroc, bien sûr. Donc, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour construire pour la danse de demain.
Il y a un aspect donc professionnel dans ces rencontres, très clairement, que les danseurs puissent rencontrer des gens du métier, prendre des contacts, imaginer ensemble des projets. Et puis, c'est clairement totalement ouvert au public, au grand public. Il y a des spectacles et les spectateurs, les spectatrices pourront venir vous voir danser.
Exactement. Alors, la majorité des spectacles sont à titre gratuit, ouverts à tout le public, tous les âges. Il va y avoir des compagnies marocaines, internationales comme j'ai dit, mais il va y avoir aussi une plateforme Jeune Création, des danseurs du Labo Danse qui est un programme de formation que ma compagnie avait initié, la compagnie Koljam. Il va y avoir aussi un programme de performance dans le cadre de Danse Fusion Morocco. Donc c'est un programme des institutions étrangères européennes au Maroc, l'UNIC. Et l'occasion aussi que ces artistes-là puissent aussi intégrer des projets de chorégraphes ou de formation, comme j'ai dit. La coopération devient un point essentiel dans cette édition parce qu'on pense que les liens et briser les frontières aussi, ça permettra aussi aux danseurs, aux chorégraphes marocains de se développer parce que, comme on sait, au Maroc, il n'y a pas de formation diplômante, il n'y a pas assez de structures pour soutenir la création, il n'y a pas d'espace de résidence, il y a peu de moyens pour la production, il n'y a que le ministère de la Culture qui soutient 2 ou 3 compagnies ou festivals dans tout le Maroc une fois par an, ce n'est pas assez.
Aucune formation diplômante ici au Maroc ?
Exactement, c'est ça la frustration.
À quoi c'est dû selon vous ? Puisqu'on forme avec l'ISADAC les jeunes au métier du spectacle, au théâtre. Il y a l'école Chemsi à Rabat qui forme aux arts du cirque. L'Institut des Beaux-Arts de Tétouan. Enfin, il y a des écoles d'excellence, les Savas Marrakech pour les arts visuels. La danse, c'est vraiment le parent pauvre. On n'a rien prévu pour la danse ?
Il n'y a rien de prévu pour la danse. Surtout la danse contemporaine, ça reste un art mineur dans le paysage artistique marocain. Et depuis très longtemps, on sait que les danseurs contemporains, et même urbains, ils doivent partir en Europe pour se former. Ceux qui reviennent, bah, tant mieux, et ils sont très rares, mais il y a beaucoup qui restent là-bas. Et même ceux qui se forment et s'auto-forment au Maroc en participant à des masterclass ou des formations sur du court terme, quand ils sont repérés par des chorégraphes étrangers, ils partent, ils ne reviennent pas. Parce que c'est ça ce qu'on n'arrive pas à comprendre, nous, danseurs et chorégraphes, c'est que le Maroc n'a rien fait pour que ce domaine puisse évoluer et aider à le structurer. Donc peut-être c'est l'occasion aussi de dire à tout le monde, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand?
Vous y avez réfléchi? Ça fait des années que vous faites de la danse, c'est votre passion, vous y avez réfléchi, vous avez des ébauches d'explications. À quoi c'est dû? À quoi c'est dû? Culturellement, il y a un blocage sur la danse?
Exactement, parce que la danse des Marocains, c'est pas la même danse qu'on a aujourd'hui. La danse contemporaine, c'est l'instant, c'est le moment, c'est l'émotion, c'est la recherche, c'est une action humaine, politique et engagée. Donc il y a beaucoup de choses à ficeler autour de ça.
C'est mal vu de danser au Maroc.
Déjà, le mot danse en arabe, c'est chteh. Et déjà, le danseur, c'est chteh. Donc, après tout ça, il n'y a rien à dire. C'est que c'est mal vu, c'est pas respecté. Ce n'est pas une partie de cette société, je pense. À part dans les mariages, dans les fêtes où on se déhanche, la danse contemporaine en tant qu'art, en tant que mode d'action, d'évolution, on participe culturellement à une évolution d'un pays, d'une culture, d'un art au Maroc, mais on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens, on doit être accompagné. Nous, les artistes, on est fatigués de faire le travail que les structures étatiques doivent faire. C'est pas notre rôle. On a fait assez, on est fatigués et en plus, il n'y a pas de continuité. Ça veut dire à chaque année, chaque action, on doit tout réinventer. On est programmateur, on est administrateur, on est manager, on est danseur, on est chorégraphe, on est formateur. C'est beaucoup pour une seule personne. Je trouve que c'est ça ce qui est fatigant. C'est qu'au final, tout le monde préfère partir parce que dans d'autres espaces, il y a ce qu'il faut pour continuer.
Pourtant, il y a une appétence, il y a une volonté, un désir de la part de jeunes Marocains et de jeunes Marocaines de se lancer dans la danse et de se perfectionner. Il y a clairement beaucoup de talent.
Beaucoup de talent. Là, derrière juste la compagnie Cold Jam, il y a 30 danseurs qui se donnent les rencontres chorégraphiques de Casablanca comme objectif annuel. Imaginez, 30 danseurs, voire 5 compagnies aussi derrière, qui attendent ce rendez-vous annuel. Donc toute leur année est focalisée autour d'une création pour se produire dans les rencontres chorégraphiques de Casablanca. C'est très bien pour nous, on est très fiers de ça. Mais ce n'est pas que ça. Les gens doivent vivre, doivent produire, doivent présenter. En Europe, en Afrique, il y a d'autres pays d'Afrique qui se sont développés sur ce domaine-là. Ils ont des dates chaque mois, chaque semaine. Un danseur est censé travailler ses 8 heures d'entraînement régulier, d'avoir des tournées au Maroc, ailleurs, en Europe, dans le monde. Mais ça, ça ne se fait pas ici. C'est parce qu'il y a tout à créer.
On revient sur ces rencontres, là, cet événement dans quelques jours. Il y a une dimension internationale aussi que vous avez souhaitée. Vous nous avez parlé du focus axé sur la Belgique, mais il y a aussi des compagnies qui viennent d'Europe, qui viennent du Sénégal et de Tunisie aussi, j'ai vu.
Du Sénégal, de Tunisie, du Bénin, de l'Espagne, de l'Italie, de France, voilà, la Belgique, voilà, c'est ça.
Donc ça se passe de mercredi à dimanche prochain, du 12 au 16 octobre. Et ça se passe donc à Casablanca, dans différents endroits. L'Institut français, la Villa des Arts, il y a également des rendez-vous à l'Institut Cervantes. Et puis ici, donc, à l'Institut français, dans ce même jardin, d'ailleurs le vendredi, il y aura une rencontre professionnelle ici. Merci beaucoup à Alam.
Merci David, avec grand plaisir.
Et on espère vraiment que donc le milieu de la danse va pouvoir se professionnaliser au Maroc et que vous aurez plus de soutien de la part des autorités. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci, au revoir. Wisha, Wisha, Wisha. مشات عليا خلاتني نبكي مشات عليا ومرض لي قلبي هي ضربي بغني يخليها قدامي حنا عفوها كايش تحها قال لي يا مليكة انتي يا كلمونيكا
On parlait danse il y a quelques instants. Et bien en 1962 au Maroc, on dansait sur cette chanson de Malika, Yaya Twist. 3 ans plus tôt, 1959, le Maroc de l'indépendance met en place sa banque centrale, Banque El Maghrib. Dans la foulée, le dirham est lancé. Il vient remplacer le franc marocain. C'est un symbole fort d'émancipation. L'argent, la monnaie, un élément essentiel de la souveraineté d'un pays. Je vous le disais, actuellement à Rabat, il y a une exposition sur l'histoire du billet de banque au Maroc. Elle est organisée par le musée de Banque El Maghrib. Ce musée, il fête ses 20 ans cette année. On va en reparler dans les prochaines semaines dans Bain de Culture. En attendant, ce musée sort de ses murs. Il n'est pas allé bien loin, à quelques centaines de mètres à peine. Le temps de remonter l'avenue Ben Abdellah jusqu'au musée Mohamed VI. On y a rejoint Nadia Sabri, la commissaire de cette exposition.
Le propos de l'exposition est d'abord artistique et surtout exclusivement iconographique. C'est une investigation, une fouille, une recherche sur l'origine ou la construction de ces images qui étaient en circulation pendant cette période-là. On peut imaginer que le choix, que la réalisation des iconographies du billet de banque n'était pas aléatoire. Il y a bien entendu une intervention des artistes, peintres, graveur très important, notamment durant la période du protectorat, on a pu repérer les noms de ces artistes puisque leurs noms figuraient dans les billets eux-mêmes. Mais ça reste quand même un témoignage d'une époque, un témoignage historique très important.
Il y a un message qu'on cherche à véhiculer, mettre cette image en avant plutôt qu'une autre. On veut faire passer un message avec un billet de banque.
Certainement. C'est un emblème, un billet de banque. Il y a une dimension politique, il y a une dimension historique très importante, que c'est un billet qui est émis par un État qui est souverain et donc qui exprime sur ce billet de banque de façon condensée, de façon souvent symbolique, les grandes valeurs. Et ce qui était intéressant par rapport à une archéologie des images, c'est de décoder la construction de ces images et de décoder surtout comment est-ce que ces images étaient construites en écho par rapport à l'histoire de l'art au Maroc de cette époque-là et par rapport également à l'histoire de l'imagerie ethnographique qui était en circulation en ce moment-là. Et l'exposition dans son corps principal, elle est composée de séquences, de plusieurs séquences, en deux parties principales, une partie dédiée au protectorat et une partie dédiée au Maroc de l'après-indépendance. Et on verra effectivement qu'après l'indépendance, il y a une réaffirmation, il y a une réappropriation du regard qui va s'exprimer à travers les productions des images. Nous sommes là dans la première partie avec trois séquences. Cette séquence porte le titre de Vue du Maroc pittoresque. C'est une expression pas anodine qui était assez en circulation à l'époque et qui renvoie surtout à comment est-ce que les artistes ou les commanditaires de ces images-là qui figuraient sur les billets de banque du protectorat voyaient le Maroc, le traduisait et surtout le stigmatisait parfois, il faut le dire également, dans une vision bien codifiée entre un recto, un verso, entre un langage décoratif, entre des vues et des scènes. La grande particularité, c'est que dans ces billets de banque, on va jamais trouver une présence humaine. Il y a toujours des vues pittoresques, un Maroc figé, selon des points de vue qui se répètent, mais quasiment la présence humaine, elle est nulle. Et également, il n'y a pas de présence de la modernité. On n'y voit pas la ville nouvelle, les villes nouvelles, hein, que ce soit Rabat ou Casa, etc. Il faut attendre la fin des années du protectorat, 1951 et 53 en l'occurrence, pour avoir un billet de banque avec le port de Casablanca.
Qu'est-ce que ça dit ? Qu'on est vraiment dans une image très exotique, très orientaliste, hein. Il faut des paysages, des remparts, mais pas des humains, pas des représentations humaines ?
Je pense que ça dit surtout que ces illustrations, le choix de ces images relevait de décisions certes conscientes, mais il y a aussi quelque chose qui échappe à la conscience, et c'est ce qui est intéressant. On est bien d'accord qu'on est dans une histoire collective, que ce soit l'histoire du billet de banque, qu'on est dans une histoire commune en partie, c'est l'histoire du protectorat, qui est une partie de l'histoire de la France et une partie de l'histoire du Maroc. Mais il y a aussi des histoires qui en bifurquent, comme l'histoire de l'art, comme l'histoire de la peinture coloniale, comme les histoires de chaque artiste, parce qu'il ne faut pas non plus stigmatiser Pontoise dans ce point de vue sur Fès. Il y a derrière, bien sûr, un imaginaire et une œuvre qui est plus complexe qu'une seule œuvre. Donc, pour ma part, mon point de vue, c'est réellement de créer des résonances entre ces ramifications et de faire en sorte que les histoires se croisent jusqu'aux histoires personnelles et individuelles. Je vous le disais tout à l'heure, quand je croise des visiteurs, pour la plupart, ils retrouvent une partie de leur histoire personnelle en se remémorant le 5 dirham des années 60 pour les anciens, on va dire, et puis jusqu'au billet des années 70. Et ça intéresse autant les enfants que les Marocains, que les étrangers, parce que c'est aussi co-construire une histoire individuelle à travers ce que la grande histoire nous apprend.
Donc là, on a quitté la partie des billets de banque fabriqués sous protectorat et on passe sur les billets de banque de la période de l'indépendance.
Oui. Alors ce billet-là, il est annonciateur. On va voir les billets de banque documentés avec tout ce qui va avec, mais ici, juste une mise en bouche pour voir un peu quelle est cette rupture radicale qui va se faire. C'est qu'on va voir apparaître ces illustrations propres au pays fraîchement indépendant, avec une grande volonté de reconstruction, de modernisation, d'affirmation, d'indépendance. Et on a ici cette image, cette scène d'un paysan avec un tracteur, et une scène aussi qui laisse entendre également les grands chantiers du Maroc de la pré-indépendance avec le plan agricole, par exemple.
Si on doit décrire ce billet de banque, donc sur la droite, on a ce personnage, on a le paysan qui est torse nu.
Oui, qui est torse nu.
Qui porte la barbe, qui a un air très déterminé.
Oui,
absolument. Il a dans ses bras du blé. Oui. Une sorte de bouquet de blé. On voit qu'il est au milieu du champ et effectivement, derrière lui, on voit des engins mécaniques. On comprend que c'est peut-être une moissonneuse-batteuse. Enfin,
oui.
Vous comprenez si je vous dis qu'en fait, on a l'impression qu'on n'est pas loin de la représentation des pays socialistes de l'époque ?
Absolument, absolument. Il y a un côté nationaliste, il y a un côté volonté d'affirmation nationale et qu'on retrouve également dans les pays indépendants également.
Ce monsieur, avec son regard qui va loin, il est vraiment en train de bâtir l'avenir avec détermination.
Oui, vous le décrivez très bien. Et puis même son emplacement sur le côté droit à l'angle crée une certaine perspective, une certaine force.
On a l'impression qu'il va marcher, qu'il va se déplacer sur le billet.
Oui, il sort quelque part. Ouais. Regardez, il y a un cadre. Et là où il y a son torse, et avec le bouquet de blé, on a une discontinuité de cadre. Et en fait, il sort.
Il sort du cadre.
Donc il y a vraiment quelque chose de très fort. Quand on compare cette image à ces vues pittoresques figées dans la répétition du langage décoratif et des vues, certes très intéressantes et historiquement importantes, là on est dans quelque chose d'extrêmement dynamique et d'extrêmement affirmé.
On avait beaucoup de paysages, vous le disiez, vous le soulignez, peu de personnes humaines dessus, voire pas du tout.
Jamais. Pas du tout. On n'a pas de personnages représentés sur les billets de banque de la période du protectorat. C'est ce côté aussi figé, déshumanisé en quelque sorte. Je le dis avec des guillemets, mais effectivement, la présence humaine, elle sort du cadre ici.
Alors là, oui, clairement. Juste après l'indépendance, le personnage humain devient le personnage central.
Et effectivement, ce qui caractérise les illustrations de ce billet de banque, c'est que c'est d'abord le regard que porte le Maroc sur lui-même. Et ça devient aussi intéressant dans le sens où quelles sont les scènes, quelles sont les thématiques, quels sont les points de vue qui vont être utilisés pour illustrer ces billets de banque.
Vous regardiez auparavant les billets de banque ?
Les pièces plus, mais je découvre le billet de banque également et... Et ce qui est clair, c'est...
On s'en sert tous les jours du billet, enfin oui, mais effectivement, hormis sa valeur, je vous avouerai que moi, je n'ai jamais regardé vraiment les billets en détail. Il se trouve que dans mon portefeuille, j'en ai. Alors j'ai quoi ? J'ai 100 dirhams, et avec un peu de chance, j'ai 200 dirhams. Oui, j'ai 200 dirhams.
Oui.
Alors ça, c'est des billets récents, évidemment.
Là, on voit effectivement, quand on prend les billets... du recto, on voit qu'effectivement, on est dans la même composition avec un recto où l'effigie royale elle est présente ici à droite.
Mm-hmm. Hein.
Et à l'arrière-plan, on n'a pas un éclair comme ça, on peut le voir, mais on a tout ce langage des arts décoratifs qui est très présent. Hein, comme on a pu le voir dès les premiers billets de banque jusqu'à aujourd'hui, les arts décoratifs, l'artisanat marocain continuent d'être très forts symboliquement parlant. Au verso, on a des scènes. Ici, c'est Cap Spartel, je pense, avec le projet, donc le
Tangemed. Alors, je n'avais jamais remarqué. Sur tous les billets de 200 dirhams, il y a le phare du Cap Spartel à Tanger.
Exact.
Donc, honneur à Tanger sur le 200 dirhams.
Oui, absolument. Et ici, pour le 100 dirhams, alors on a honneur à la culture marocaine Hassani, la culture sahraoui.
On est sur une caravane.
On est sur une caravane. Alors, ce qui est intéressant, c'est que après la constitution de 2011 et l'affirmation, justement, de l'appartenance culturelle marocaine juive, Hassani, Amazigh, etc., on va retrouver même dans le 50 dirhams également une grande présence d'attributs de l'artisanat.
Vous savez quoi, Nadia ? J'ai le 50 dirhams, c'est formidable, j'ai le 20 dirhams. Coup de chance, c'était pas prévu du tout, mais j'ai tout ça dans mon portefeuille, c'est incroyable.
J'ai du mal à le croire.
Mais non, je vous assure, souvent j'ai quelques pièces, mais là je suis en voyage, je suis en déplacement à Rabat,
voilà.
Donc j'ai un peu d'argent dans mon portefeuille.
Donc on a dans le 50 dirhams ici l'art gagné. Donc là aussi, c'est un hommage qui est fait d'abord à la nature, mais aussi à un symbole majeur de la culture marocaine, qui est l'art gagné. Ici, on a la mosquée Hassan II.
Là, on est parti sur le billet de 20 dirhams. Et sur la gauche, il me semble, le pont qui relie Rabat Salé. C'est avec le tram qui passe.
Exactement. Mm-hmm. Donc c'est surtout une thématique dédiée au grand chantier aussi, à la modernisation toujours. Et donc les grandes œuvres, l'enracinement et le référentiel culturel traversent les périodes et les époques et restent un leitmotiv du billet de banque marocain.
C'est bon, je range mes billets.
Oui.
Hop là. Merci beaucoup, Nadia Sabri.
Avec plaisir, merci à vous.
Une archéologie des images, le billet de banque marocain au prisme de l'histoire et de l'art. C'est à voir actuellement au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Et puis les rencontres chorégraphiques de mercredi à dimanche à Casablanca, de mercredi à dimanche prochain. Toutes les infos sur coljam.ma, coljam.ma. Je vous embrasse, à la semaine prochaine. The first thing I met was a fly with a